Le journal des festivals avec Mix, la radio étudiante et votre radio.
Bonjour à toutes et à tous. Mix, la radio étudiante, se trouve à la 59e édition du Festival OFF d'Avignon. Et nous rencontrons Florian Pack, qui a écrit, mis en scène Dans le silence des paumes, qui joue au Théâtre du Train Bleu, et dans lequel il joue également avec Nicolas Schmitt et Lelia Salvador. Alors, ce spectacle, donc, qui joue déjà dans un espace très particulier, dans une salle de la Maïf hors les murs, est un spectacle qui est complètement ancré dans le contemporain, puisqu'il nous parle des travailleurs précaires, notamment en tout cas de leur corps, de leur psychisme aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il est question dans cette pièce?
Eh bien, c'est trois enfants qui sont appelés au chevet de leur maman et qui la découvrent souriante, mais on se rend compte très vite que eux ne la connaissent pas bien, et par un procédé un peu magique, ils vont poser leur tête dans les mains de leur maman et ils vont réentendre l'histoire de son corps, une histoire qu'elle n'a jamais racontée, faite de sacrifices, de rencontres inavouées, de douleurs cachées. Et donc c'est cette réexploration de la vie de leur maman qui leur fait prendre conscience de quel sacrifice elle a fait pour les élever, pour peut-être ne pas leur offrir la vie qu'elle-même a vécue. Et c'est basé sur une enquête documentaire qu'on a nous-mêmes menée auprès de d'habitants et d'habitantes de Sevran dans le 93, en collaboration avec le Théâtre de la Poudrerie. Et on entend les voix de ces témoignages de ces hommes et de ces femmes qui ont bien voulu répondre à nos questions et qui font écho à la fiction qui est jouée devant les spectateurs au plateau.
C'est en ce sens une pièce très engagée, socialement parlant. Elle donne à voir la vie d'une femme et les relations aussi entre les parents et les enfants, mais aussi entre les frères et sœurs au sein du cercle familial. Et c'est très très touchant. Et cette vie de femme semble déterminée complètement par ce qu'elle a pu faire ou ne pas faire à un moment donné, comme avoir cet enfant à un moment donné qui l'empêche entre guillemets de passer son diplôme convenablement de dactylo. Est-ce que c'est pas aussi pour donner la parole à des gens qui sont d'habitude invisibles que vous cherchez à montrer cette pièce au grand public?
Tout à fait. C'est la consigne de la Poudrerie était de créer un spectacle sur le corps. Et nous, à travers nos différentes créations, on abordait souvent la question du travail. Donc notre premier objectif, c'était de parler du corps au travail, un corps travaillé par le travail, un corps salarié, mais aussi travaillé par le travail contraint à domicile. Et quand on a démarré la création, l'enquête documentaire dont on a parlé, eh bien, on a démarré au moment des grandes réformes contre la réforme des retraites, pardon. Et il y avait une catégorie de personnes qui avait largement été oubliée par les politiques, à savoir les mères célibataires aux carrières hachées par leurs différentes grossesses. Et on s'est dit, bah voilà encore une catégorie de personnes dont on parle trop peu, et on a eu envie d'approfondir ce sujet-là et de les mettre en scène. Pendant une heure, on donne voix à une femme qui s'appelle Maryse, mais qui est toutes les Maryses qu'on a pu rencontrer dans notre enquête. Ce n'est pas la vie de quelqu'un en particulier, c'est un assemblage de centaines de vies, de milliers de vies, parce qu'elles font écho aux nôtres, à des gens qui nous entourent. Et c'est en ça qu'elle est politique. Je ne crois pas que le propos soit brutal, soit offert violemment aux spectateurs, mais c'est parce que on assemble des extraits de vie, des extraits du quotidien. Et en fait, cette vie du quotidien, ces violences sourdes parfois, banales, font que, en fait, on se rend compte que ce parcours de vie est politique et qu'il n'est pas trop, il n'est pas suffisamment médiatisé.
Alors, par ailleurs, pour parler de ce parcours de vie des invisibles, vous avez un format très particulier pour cette pièce et qui est plein d'inventivité, c'est extrêmement ingénieux la manière dont à trois vous gérez tout en fait sur le plateau dans un espace qui est particulier puisque les spectateurs peuvent se voir les uns les autres. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment ça se passe?
En fait, le spectacle est né avec la Poudrerie d'une commande passée pour jouer en appartement. Donc la création s'est faite dans un espace de 2 mètres sur 3 maximum, avec la contrainte de ne pas avoir de technicien avec nous et que notre décor devait rentrer dans une Kangoo. Pour ne pas leur faire de pub, mais c'était ça la consigne. Et donc, il a fallu penser à ça, à cette contrainte qui allait devenir maintenant une source de liberté, parce qu'on se disait bah ok, on a cet espace là, on peut pas mettre des projecteurs dans un appartement, ou en tout cas c'était pas notre volonté, on voulait jouer vraiment avec l'espace, mais on voulait vraiment qu'il y ait du théâtre dans cet espace. Et donc bah par des éléments qui nous paraissent quotidiens, comme des bidons de lessive ou de ménage, et ben subitement ça devient des lumières et on s'y attend pas, et ça apporte de la magie. C'était aussi offrir aux spectateurs qui allaient écouter le spectacle, malgré la gravité du sujet, un instant de magie et de théâtre, vraiment, de se dire bah oui, on doit incarner cette femme, et on n'a pas l'âge pour incarner cette femme, et chaque enfant va incarner les souvenirs qu'il a eu avec cette femme. Ça aussi, c'est des codes qu'on donne petit à petit aux spectateurs, et je crois modestement que ils se comprennent au fur et à mesure des scènes, et le spectateur oublie totalement qu'il n'est pas dans un appartement, qu'il est dans un espace blanc qui sont généralement des bureaux, mais en fait par cette proximité avec les comédiens, par cette façon que on peut se regarder, le public a le droit de regarder les autres spectateurs en face et de voir leurs réactions, et tout ça participe à l'intimité et à la plongée dans la vie de cette femme. C'est comme si le spectateur était invité comme un fantôme, comme tous les fantômes qui avaient gravité dans la vie de cette femme, vous êtes invité à venir lui rendre un dernier hommage.
Et c'est vrai que la mise en scène est intéressante, parce que jamais vous ne nous perdez dans les personnages. On sait toujours très très bien exactement où on en est. Et je voulais aussi vous poser une autre question concernant les autres projets. C'est pas le premier projet que vous avez qui s'inscrit dans le terrain social. Est-ce que vous pouvez mentionner les autres projets que vous avez eu avant?
Oui, c'est la veine de la compagnie qui s'appelle Le Nez au milieu du village et qui est basée à Orléans, que je co-dirige avec Nicolas Schmitt, c'est de vraiment mettre en avant des parcours d'hommes et de femmes invisibilisés. Et donc, on a abordé dans nos dernières créations, notamment un employé Amazon de la ville de Saran, près d'Orléans, qui, la nuit de Noël, décide de s'enfermer dans un carton et d'attendre que quelqu'un le commande, estimant que sa vie valait peut-être moins que les objets qui étaient disposés dans l'entrepôt. On a aussi abordé la question des chauffeurs indépendants, Uber, avec l'histoire de Fourmi. C'est un spectacle tout public, à l'adresse essentiellement des adolescents. C'est un chauffeur qui rêve de partir en Thaïlande, et pour ça, il va écouter la promesse qu'on lui fait sur les réseaux de devenir chauffeur, de vivre la belle vie, de travailler où il veut, quand il veut, d'être son propre patron. Mais après, la réalité du terrain n'est pas la même. Et la prochaine production de la compagnie, ça s'ancre toujours dans la réalité, dans le documentaire. Mais on s'écarte un petit peu de la question du travail, pas extrêmement. On aborde un fait divers qui a eu lieu à Strasbourg en 2017, si je me souviens bien, qui est une jeune maman qui a appelé le SAMU en détresse, en disant qu'elle allait mourir, et elle a été rembarrée par une opératrice expliquant que on allait tous mourir et qu'elle avait qu'à appeler SOS Médecin. Et cette jeune femme, malheureusement, est décédée, et quelques mois plus tard, son appel a été diffusé sur les réseaux sociaux, ce qui a donné lieu à une chasse à l'homme, où on essayait de retrouver l'opératrice. C'est déjà nauséabond, cette chasse à l'homme, mais en plus, ils ont divulgué le portrait, l'adresse, le numéro de téléphone d'une femme qui n'était pas la personne incriminée dans cette affaire. Et donc, du jour au lendemain, une mère de famille a vu sa vie basculer de sa réalité à un cauchemar intégral. Et donc, c'était aussi pour mettre en avant les cris de haine qu'on a sur les réseaux sociaux, et parfois les cris de détresse du SAMU, qui sont des gens qui font ce qu'ils peuvent, qui peuvent faire des erreurs. Je ne suis pas en train de déculpabiliser cette opératrice, mais qui finalement sont tellement sous pression qu'ils en arrivent à commettre des fautes. Et donc, c'est la confrontation de ces cris de haine sur les réseaux sociaux, qui sont très audibles, et les cris de détresse de ces gens au SAMU, qu'on n'entend pas parce que, en fait, ils sont au service de la population et cachés derrière leur téléphone, c'est cette confrontation-là qui sera l'objet de la prochaine création.
Très bien, on a hâte de la voir. Je vous remercie beaucoup. En attendant, nos auditeurs peuvent aller voir dans Le Silence des Paumes, tous les jours sauf les vendredis à midi, au Théâtre du Train Bleu, délocalisé pour le coup à la Maïf, mais il faut venir au Théâtre du Train Bleu. Merci beaucoup, à bientôt sur Mix, la radio étudiante et ses radios partenaires. Merci Florian, au revoir.
Merci.